Nous allons étudier tout d'abord l'étymologie du mot culture. Le mot français culture vient du latin cultura, qui a la même signification qu'en français, et qui vient lui-même du verbe latin colere, qui signifie soigner, entretenir, notamment en parlant de la nature. On peut ainsi penser au jardinier qui cultive son jardin, c'est-à-dire qui l'entretient et le soigne. Le verbe latin peut aussi signifier honorer en parlant des dieux, d'où la formation du mot français culte. Voyons maintenant la définition du mot culture. D'une manière très générale, on peut définir la culture comme l'ensemble des activités par lesquelles l'homme transforme la nature, ainsi que le produit de ses activités, c'est-à-dire toutes les productions matérielles, morales et spirituelles de l'homme, par opposition aux productions de la nature. En partant de cette première définition générale, on peut ensuite établir une distinction fondamentale entre deux autres conceptions plus particulières de la culture. On trouve en effet une antinomie qui est à la source de toute la réflexion philosophique sur la culture. L'universalisme ou le particularisme des valeurs humaines. La conception de Cicéron, philosophe romain du 1er siècle avant Jésus-Christ, se porte sur la culture de l'esprit, la cultura animi, dit-il, comme l'ensemble des savoirs théoriques, les sciences, mais aussi pratiques, le savoir-faire et même le savoir-être acquis par un humain au cours de sa formation, de son éducation et de son instruction, et qui contribue à l'élever au-dessus de la condition primitive de l'animal, qui était d'abord la sienne, c'est-à-dire à faire de lui un être cultivé ou civilisé, par opposition aux sauvages ou aux barbares. Ce premier sens correspond à une conception philosophique que l'on peut appeler humaniste, à la fois individualiste et universaliste de la culture. Elle est défendue, comme je viens de le signaler, par le philosophe Cicéron, notamment. Elle concerne tout être humain en général et suppose qu'il existe des valeurs humaines universelles ou une nature humaine. Un second sens du mot culture, au contraire, correspond à une conception que j'appellerais ethnologique ou anthropologique, qui est à la fois communautariste et relativiste ou différentialiste. C'est-à-dire, la culture se définit comme ce qui est propre à une société donnée, c'est-à-dire un ensemble de règles de comportement et de réalisations matérielles ou spirituelles qui caractérisent un groupe social particulier et que l'individu doit s'approprier afin de pouvoir s'y intégrer. Cette conception est défendue, par exemple, par Michel Léris ou Claude Lévi-Strauss, notamment. Elle suppose qu'il existe des valeurs culturelles particulières et distinctes selon les sociétés, de sorte qu'elle remet en cause l'idée de nature humaine ou d'universalité humaine. En résumé, soit on considère, selon la conception de la pensée dite humaniste, qu'il existe des valeurs culturelles universelles qui nous renverraient à une supposée nature humaine et auxquelles tout être humain devrait adhérer, ou bien on considère que ces prétendues valeurs ne sont qu'un leurre qui dissimule en réalité la volonté hégémonique d'une culture particulière. Auquel cas, il n'existerait donc que des cultures, au pluriel, des cultures particulière, relative à des conditions socio-historiques données. À travers ces deux conceptions de la culture, nous nous poserons trois questions principalement. Premièrement, la culture fait-elle de l'homme un être à part des autres êtres? Deuxièmement, peut-il exister une culture humaine universelle? Et enfin, troisièmement, une culture peut-elle être supérieure à une autre? La conception philosophique et humaniste de la culture repose sur l'idée que l'homme peut et doit s'élever au-dessus de la nature, c'est-à-dire à la fois au-dessus des autres animaux et au-dessus de sa propre condition animale, et ce, grâce à ses efforts, tant physiques qu'intellectuels, pour transformer le monde tel qu'il lui a été donné au commencement de son histoire. On retrouve ainsi cette conception dès la mythologie grecque avec le célèbre mythe de Prométhée, qui est par exemple résumé par Platon dans le dialogue intitulé Protagoras. Puis, on retrouve cette conception dans la philosophie gréco-romaine antique avec Isocrate ou Cicéron. Et on la retrouve également dans la pensée moderne, notamment au moment de la Renaissance, je pense par exemple à Érasme ou à Montaigne, ou bien encore au siècle des Lumières, comme par exemple chez Jean-Jacques Rousseau ou bien chez Emmanuel Kant. Et on la retrouve enfin jusque chez des penseurs contemporains tels que Hegel ou Marx, notamment au XIXe siècle. Toutefois, cette conception humaniste suppose une vue historique ou diachronique de l'humanité qui conduit à opposer celle-ci aux autres espèces vivantes et à penser que l'homme serait progressivement sorti de la nature au cours du temps. Or, il convient de se demander si ce n'est pas là une vue de l'esprit, tant il paraît difficile de démêler en réalité ce qui, dans les comportements et les réalisations de l'être humain, relève soit de la nature, soit de la culture. La manière spécifique qu'a l'homme de satisfaire ses besoins naturels est toujours culturelle, en effet, dans la mesure où elle a recours à des outils et à des représentations mentales que l'homme a lui-même produits. Tout est fabriqué et tout est naturel chez l'homme, écrivait ainsi le philosophe Maurice Merleau-Ponty en 1945 dans la Phénoménologie de la perception. De plus, les sciences de l'homme, en particulier l'ethnologie et l'anthropologie, deux sciences qui sont nées à la fin du XIXe siècle, en s'efforçant de comparer et de rapprocher les cultures humaines, tendent à nous offrir une vue synchronique ou anhistorique, et ainsi à remettre en cause une conception évolutionniste de la culture qui semble finalement très datée et localisée, à la fois anthropocentrée et européocentrée, pourrait-on dire. Comme le résume de manière synthétique Claude Lévi-Strauss, je cite, « L'anthropologie structurale réintègre l'homme dans la nature ». C'est une citation tirée de L'homme nu, un ouvrage publié en 1971. À la question « Peut-il exister une culture humaine universelle ?», là encore, la distinction entre les deux sens du mot « culture » que nous venons d'évoquer nous conduit à interroger la portée des valeurs culturelles produites par les hommes. Peuvent-elles s'étendre à l'humanité tout entière? Ou bien sont-elles, au contraire, conditionnées par leur contexte d'apparition, géographique ou historique? La question comporte en outre une double dimension, dans la mesure où le verbe « pouvoir »,« peuvent-elles », porte non seulement sur la possibilité qu'il existe une culture humaine universelle, mais également sur la légitimité d'une telle forme de culture. Ainsi, penser qu'il existerait des valeurs culturelles universelles, c'est toujours prendre le risque de confondre ses propres valeurs culturelles, nécessairement relatives et particulières, avec des valeurs absolues et inconditionnées. Considérer qu'une culture puisse être supérieure à une autre, n'implique-t-il pas une certaine arrogance qui peut être la cause ou l'effet d'une volonté de domination? Comme nous le rappelle le philosophe Montaigne, stigmatiser certaines sociétés humaines éloignées de la nôtre en leur attribuant le qualificatif de sauvage ou de barbare, comme l'ont fait notamment les Européens lors de la conquête de l'Amérique au sujet des Indiens, traduit non seulement de l'arrogance, mais surtout de l'ignorance, celle du caractère relatif de toute culture humaine. Je cite la célèbre phrase de Montaigne, « Il n'y a rien de barbare et de sauvage en cette nation indienne, écrit-il, sinon que chacun appelle barbarie ce qui n'est pas de son usage. » Essai 1588. On peut ici penser également au célèbre ouvrage de Montesquieu, Les Lettres persanes, publié en 1721, et à la célèbre exclamation, je cite, « Comment peut-on être persan ?» laquelle traduit l'étonnement teinté d'arrogance des Parisiens face à une culture qui leur est étrangère, représenté par la tenue exotique du personnage de Montesquieu, dénommé Usbek. Enfin, dernière question, le progrès de la civilisation entraîne-t-il nécessairement un progrès de la moralité? Le philosophe Emmanuel Kant écrivait en 1784, je cite, « Nous sommes hautement cultivés dans le domaine de l'art et de la science, nous sommes civilisés au point d'en être accablés pour ce qui est de l'urbanité et des bienséances sociales de tous ordres, mais, quant à nous considérer comme déjà moralisés, il s'en faut encore de beaucoup. » Le célèbre philosophe prussien des Lumières, lecteur de Jean-Jacques Rousseau, établissait ainsi une distinction conceptuelle très importante entre trois notions que nous avons habituellement trop tendance à confondre. Premièrement, la culture, c'est-à-dire l'acquisition des savoirs théoriques et techniques. Deuxièmement, la civilisation, c'est-à-dire l'acquisition de ce qu'on pourrait appeler le savoir-vivre. Et enfin, troisièmement, la moralité, c'est-à-dire en fait la disposition à bien agir. Ce qui signifie, selon Emmanuel Kant, que la disposition à agir en vue de valeurs et de règles universelles conformes à la raison humaine n'est pas encore pleinement développée en chaque être humain. Autrement dit, le philosophe de Königsberg nous invite à une réflexion critique sur l'idée de progrès, que l'on associe trop facilement avec l'idée de culture. S'il est vrai que, par la culture, l'homme s'est peu à peu éloigné de l'état naturel qui caractérisait son existence primitive au premier temps de son histoire, cela ne signifie pas pour autant que l'homme soit devenu meilleur à tout point de vue. Pour Kant, il ne s'agit donc pas de dénier toute valeur à la culture ni à la civilisation, mais de soumettre celles-ci à un examen critique de la raison. On distingue classiquement en philosophie les notions de culture et de nature, car les productions de l'homme font appel au savoir ou bien au savoir-faire conscient et réfléchi, contrairement aux productions naturelles qui sont spontanées et non réfléchies. Comme le dit Karl Marx, contrairement à l'abeille qui construit les cellules de cire dans la ruche de façon instinctive, l'architecte humain élabore un plan avant de se lancer dans la réalisation d'une construction. Néanmoins, il convient de relativiser cette distinction philosophique car, à observer les comportements effectifs des hommes en société, il ressort que la dimension naturelle ou biologique de leur existence paraît indissociable en réalité de la dimension sociale et culturelle. Ainsi, pour mieux satisfaire leurs besoins naturels, les hommes transforment d'abord ceux-ci en des besoins sociaux et culturels, sans cesse renouvelés.